The French Connection.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 263 de la French Connection. On est en début de 2025.
Bonne année tout le
monde. Bonne année!
Hey, bonne année!
Bonne année!
Yeah. Chez, mange tes chips.
Ouais, je voulais pas parler à bouche pleine. Bonne année!
Ben c'est ça, on est avec Steve, Gabriel, Jacques, Richer, puis ça a l'air que c'est Guillaume est là aussi, Gab, c'est ça que tu me disais?
Oui, bonjour Patrick.
Non, faut que tu te mettes dans la salle de bain, parce que des tuiles.
Ah oui, c'est bon, je me mets plein d'écho, oui, c'est vrai.
On parle de l'autre bord. L'autre bout.
Bonjour ça, Patrick. Chaise, ça recommence.
Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Yeah, presque. Ton micro est trop bon.
Ça me prendrait beaucoup d'écho. Faudrait que j'aille comme dans la douche, quelque chose. Ça marcherait bien. Ça me prendrait un chat qui miaule comme une hystérique de temps en temps.
J'ajoute de l'écho.
Oh!
Yeah! Very nice. Faire un sermon? Wow! J'ai goût d'écouter la messe.
Vas-y, dis-nous ta phrase favorite, Jacques, avec de l'écho, ça serait parfait.
Mm. Patrick vous système.
Voyons, mais là, regardez, on pourrait peut-être faire... Ça sort de où, ça? Hein?
Patrick vos systèmes.
Hein? There you go.
OK, je le fais, monsieur, je le fais.
Ça parlait comme des effets de flammes, de tonnerre en arrière, comme Patrick
vos systèmes. C'est sur le plafond de la Sistine Chapel, là, le Adam, ouais, il touche le barbu. Ben, c'est ça, c'était moi, ça.
Il patche son système.
Il est en train de pêcher sur le trois reset.
Je sais même pas si Jacques t'a vu l'image que j'ai mise sur Discord. Je t'ai tagué, mais je sais pas si t'es allé la voir.
Le gif de moi dans le soleil, là.
Oui! C'est tellement beau!
Qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? C'est-tu qui est calme? Mais non, mais c'était drôle. C'était drôle.
I agree.
Ouais.
Je l'ai mis
I bring
ici.
Sunshine wherever I go. C'est quoi?
Sunshine and vinegar.
Pas un vieux cheval, plein de vinaigre, mais c'est ça.
Ça fait longtemps que je voulais le faire, puis quelqu'un a posté l'image. Bon, j'ai le gif. Face swap, go! Vous checkerez ça, ça sera dans les show notes si ça vous intéresse. Bonne année tout le monde. Merci d'être à l'écoute. On commence l'année avec les Shameless Plugs. Il y en a juste une. Et on simplement venez nous parler sur le Discord, hein, discord.ecfest.ca. Et prochainement, on travaille à revamper notre podcast, site web, logo, plein d'affaires. Fait que des belles petites choses qui s'en viennent. Suivez cela dans les prochaines semaines. Et on commence avec Steve. Je What? Pense que c'est le bug de l'an 2000, mon Steve. Fait que,
yeah!
Parle-nous de ça. Yes.
Bon 25e anniversaire. Et oui, la société, la civilisation comme on la connaît, elle a survécu. Et on a pu, à ce moment-là, se rendre jusqu'à aujourd'hui d'en parler 25 ans plus tard, alors que le 31 décembre 1999 était prévu qu'à minuit, ben les lumières s'éteignent, les avions tombent du ciel, les bateaux rentrent sur les plages, l'avarie, l'apocalypse. Fait que, par contre, ça a été beaucoup de travail depuis pendant 10 ans préalablement en 2000, puis même ça avait été identifié dans les années 80, comme quoi que 00-99, ça marchait pas. Fait que, il a fallu ben des patchs, ben du travail de longue haleine. Mais ce qui était drôle là-dedans, au moment où j'étais militaire, puis la préoccupation première de l'armée était si jamais il arrive quelque chose d'exceptionnel, comment contenir la panique? Parce qu'il y a eu des films, il y a eu des documentaires, des livres qui se sont vraiment bien vendus durant 1999, les programmes de survie, les achats de rations sous vide, toute l'équipe. Et donc, dans ce contexte-là, c'était la préoccupation première, la sécurité publique, what if? Ça avait été, il y en a qui ont chialé que ça a coûté de l'argent pour rien, ouais, mais l'état de préparation, c'est ça qui est nécessaire. Il faut être capable d'anticiper si jamais ça dérape, ça déborde, comment est-ce qu'on va régler ça? Comment est-ce qu'on va aider tout le monde? Parce que si on prend, par exemple, un système de téléphonie, si la téléphonie, dans ce temps-là, c'était des méridiens de Norton Telecom, ben, si le méridien plantait, ben, tout ça avait été testé pareil. Mais s'il plantait, là, qu'est-ce qui était l'alternative pour parler au reste du pays? Ben, on avait un backup satellitaire avec une antenne de 15 pieds d'encours, puis c'était sur Annick 2, si mon souvenir est bon, puis etc. T'sais, fait que c'est de cette manière-là que aujourd'hui, j'en parlais sur une autre intervention aujourd'hui, quel est notre niveau de résilience aujourd'hui, est-ce qu'on a évolué de cette résilience-là en 25 ans? La réponse est non. Téléphone IP, c'est pas ça qui a apporté.
C'est le bug Unix qui s'en vient, non?
Oui, le Y2K38, Y2K38, qui, à ce moment-là, c'est... donc, Y2K était avec de la programmation 16 bits principalement, et là, la programmation 32 bits va faire en sorte qu'il pourrait y avoir un reset de date un peu similaire à ce que Y2K a signifié. Et oui, on est quoi, là? 38 moins 25, on est 17 ans avant. Ben, les travaux se mettent de l'avant pour être en mesure d'être capable, donc, de régler ça avant que ça arrive.
Ouais, c'est pour ça que le 1er janvier 2000, c'était un gros downer, finalement. On se réveille, puis
tout marche. On a tout attendu à minuit, vous savez. Ah, ouais.
Très excusé. Ben, oui, puis non, parce que, encore une fois, la majorité d'entre nous, on est technique, on a travaillé là-dedans, puis on a vu les choses évoluer. Je pense qu'ici, la communauté était quand même assez, assez certaine de qu'est-ce qui arriverait. Mais j'en ai croisé et connu du monde qu'eux autres, là, ça tapait du pied, là, puis ils sont couchés de bonne heure, puis ils sont réveillés à minuit une pour voir si les lumières étaient allumées, that's it, là.
Mm-hmm.
Mais non, sérieux, ça puis ce qui était drôle, c'est parce que collectivement, le Québec venait de sortir de son verglas en 98, donc elle s'annonçait un autre cataclysme potentiel. C'est là que ça a accroché dans la société. C'est pour ça que les gens étaient assez aidants, bien plus qu'ailleurs dans le monde. Fait que quand tu regardais les feux d'artifice s'animer à Nouvelle-Zélande lorsque le cap du 1er janvier était franchi, puis rien qui arrivait, bien là, les gens ont décroché. Puis ils ont dit, ah ben, on va s'amuser finalement. Fait que le reste de la journée, de la soirée, a été festive pour ces raisons-là.
Ça a été une période au moins un an ou deux avant ça qui a été très payante là, pour les consultants. Moi, j'étais dans le monde Nouvelle à cette époque-là. Puis, yep. Hey boy, c'est rien que ça qu'on a fait en 99, là, faire des mises à jour de serveurs de Nouvelle, des clients, des Windows. Hey, c'était l'année de patcher des systèmes, ça.
Idéal, Mazin.
Ouais.
Mais écoute, c'était comme ça, il fallait le faire aussi. Là, puis ça s'imposait. J'anticipe bien mal qu'on aurait laissé ça comme ça, puis dire, on verra si ça arrive. Voyons donc.
Quoi? Ouais. Comme d'habitude, Steve.
À cette époque-là, là, Steve, là, on l'a vécu. Il y avait une réelle inquiétude de la part des clients, des manufacturiers, de tout ça. Là.
Ouais, mais aujourd'hui, on attend que ça arrive, puis il n'y a pas d'inquiétude.
Ouais. On a eu des... Tu sais, quand je parle des cas où on attaque des infrastructures critiques, tu sais, quand je fais des formations, je mentionne qu'on a eu des avant-goûts dans les deux dernières années, ou quasiment trois, là, mais tu sais, il y a eu la panne de Rogers en avril 2022, là, où il n'y avait plus d'Interact qui fonctionnait à travers le Canada. Bon, c'était comme la fin du monde, hein? Vous vous souvenez de ça? On n'a pas arrêté cette journée-là. Après ça, ben, l'histoire de CrowdStrike l'été dernier. Puis là, on réalise que, tabarnouche, c'est des moments où qu'on recule, là, qu'on se dit, hey, on est vraiment dépendant de ces infrastructures-là, hein? Qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que, ça prend pas grand-chose, honnêtement.
Ben, ce qui est drôle, Jacques, c'est que le temps que c'est à off, les gens paniquent, les gens font cette introspection, comme tu dis. Puis quand c'est réglé, puis ils continuent à avancer dans la vie, ils pensent plus, là.
Non, c'est réglé.
Ah, exactement.
C'est réglé.
Non, regarde, rappelons-nous, le 24 décembre, là, American Airlines, ils ont groundé un paquet d'avions, justement, à cause d'une boîte dans le réseau qui n'était pas fonctionnelle, passait pas l'information jusqu'au pilote, puis ils ont groundé tout le monde.
Non, mais ça a duré quelques minutes seulement, ça, par contre.
Ils ont fallu qu'ils arrêtent bien les avions. Ça a été 3900 quelques avions qui ont été groundés, le temps qui confirme le tout. Mais comme tu dis, ça a été momentané.
C'est ça n'a pas duré longtemps.
Ils ont été chanceux, oui.
Non, mais le mal était fait pareil, là. C'est ça qui est ironique. Fait que ça a des grandes conséquences aujourd'hui, là. Puis...
Oui, mais le ripple effect quand tu fais des trucs comme ça, c'est assez intense. Hein.
Oh, yeah.
Ah, exact. Jacques, allons discuter de... ça va bien, mon affaire.
Lequel?
Power School, la rançon Power des pirates.
School, yes, OK. Attends un peu, là, je ne sais jamais ce qui va me sortir. Là. Oui, Power School, un fournisseur californien de logiciels éducatifs, a été victime d'une cyberattaque le 28 décembre, joyeuse fête, qui a touché 80% des divisions scolaires du Manitoba particulièrement, mais il y avait aussi beaucoup de commissions scolaires en Alberta qui ont été touchées. L'entreprise a confirmé avoir payé une rançon aux pirates informatiques pour obtenir la suppression des données volées qui contenaient des informations personnelles sensibles d'élèves et d'enseignants. Ils n'ont pas fait comme le Cégep Montmorency, eux autres, ils ont payé. Les données compromises incluaient notamment des noms, dates de naissance, adresses, informations médicales et coordonnées des parents des élèves. PowerSchool affirme avoir engagé la société drumroll, CrowdStrike, pour renégocier avec les pirates et assure que l'incident est maintenant maîtrisé. Cette cyberattaque soulève des inquiétudes importantes concernant la sécurité des données dans le secteur éducatif, d'autant plus que PowerSchool est utilisé par 28 des 37 divisions scolaires du Manitoba et dessert plus de 16 000 clients dans plus de 90 pays. Donc, qu'est-ce que tu me montres, là?
T'avais-tu lu, le genre, que là, c'était quoi la quantité d'étudiants qui avaient été affectés?
Non, mais j'imagine que ça doit être dans les centaines de milliers.
Mm-hmm. 60 millions à peu près.
60 millions à travers le monde.
À travers le monde.
Ah non, c'est certain que c'est une plateforme qui est très utilisée. Quand j'habitais en Alberta, je l'entendais parler souvent. Puis,
dans le press release, si tu dis que l'information n'a pas été retrouvée sur Dark Web, tout est beau, tout est parfait.
Non, ça, y a pas, c'est pas encore sorti, mais il faut croire dans la bonne volonté des cyber méchants, sinon leur modèle d'affaires tombe à l'eau. c'est toujours ça que je dis, moi. C'est que, est-ce qu'ils vont vraiment détruire les données? Ben, s'ils ne font pas et les publient, ils viennent de se tirer dans le pied en maudit, là, parce que là, il n'y a plus personne qui va payer. Hein,
mais dans les métriques, c'est plus que 50% que quand tu payes, tu n'as pas t'attelé. Leur modèle marche solide, il faut juste que tu arrêtes à 50%.
Tu payes 50% de la rançon ou non, je ne sais pas.
C'est bon. Hey Gab, les super drones, parle-nous de ça avec le geofencing.
Oui, les drones sont beaucoup dans l'actualité dans les derniers mois, ça me fait plaisir, avec le drone qui vient de péter un de nos avions canadiens qui combat les feux, avec les drones au-dessus du New Jersey, on n'en entend plus parler, en tout cas, moi, je ne sais pas si vous avez vu la résolution de ça. C'est vrai? Puis tu m'as parlé un peu de ça, j'étais un peu curieuse.
Ben, je suis allé au New Jersey pendant le temps que c'était la grosse affaire aux US, là, c'était dans les nouvelles à toutes les heures.
Mm-hmm.
Officiellement, j'en ai pas vu, mais tu sais, de toutes les discussions qui se passent, évidemment, tous les complotistes sont sortis. Mais ce qui semblait le plus réaliste, c'est que ça ressemblait beaucoup à un test militaire pour tester leurs drones, parce que la Chine font ça constamment avec leur drone show. Donc, leur drone show n'est pas vraiment pour faire des spectacles, mais plus pour tester leur tech. Fait que ça avait l'air de ça. La majorité des drones sortaient toujours de la même endroit.
Ben, il y a une grosse nouvelle qui secoue le monde du drone civil. En fait, c'est l'évolution du geofencing puis l'harmonisation réglementaire. C'est sorti aujourd'hui ou hier. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait beaucoup de bruit. C'est DJI qui a fait ça. Je vais vous mettre un petit peu de contexte, là. Initialement, DJI avait sorti son système géo en 2013. À cette époque-là, les drones grand public, c'était pas très répandu. La réglementation était quasi inexistante. Puis DJI a été un des premiers fabricants à proposer un système de géorepérage pour aider les pilotes à éviter les zones sensibles, comme évidemment les aéroports, les bâtiments gouvernementaux, les bases militaires, etc. Puis aujourd'hui, DJI abandonne peu à peu ses propres bases de données pour se fier à celles qui vont être fournies par des organismes officiels comme la FAA, Federal Aviation Administration aux États-Unis, le EASA, Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, ou la CAA, qui n'est pas CAA Québec, c'est la Civil Aviation Authority au UK. Puis, ça répond à l'évolution des normes internationales, notamment ce qui a trait l'identification à distance, le fameux Remote ID. Ce qui s'est passé, c'est le 13 janvier, hier donc, les applications DJI Fly et DJI Pilot vont remplacer les zones restreintes par ce qu'ils appellent des zones d'avertissement renforcées, qui s'appuient sur les cartographies officielles de la FAA. Donc, les pilotes vont recevoir des alertes plutôt que de subir un blocage automatique, mais ils demeurent pleinement responsables de respecter les règles de vol. Donc, on transfère la responsabilité aux pilotes de drone. Qu'il s'agisse de vols à proximité d'un aéroport ou d'un site sensible, ça va incomber à l'opérateur de s'assurer qu'ils ont l'autorisation requise auprès de la FAA. Donc, DJI insiste que pour que les pilotes maintiennent leur application à jour, connectés à Internet afin d'avoir accès à la version la plus récente des données, c'est vraiment dans leur cours maintenant que ça se passe. C'est plus au niveau de l'application où avant, on allait quand on avait les zones restreintes de DJI présentes sur la carte. Le drone pouvait juste pas opérer dans cette zone-là, ça l'arrêtait. Ou puis, il y a toujours un rehoming mechanism dans les drones pour les ramener à la maison quand ça arrivait dans ces moments-là. au niveau du Royaume-Uni puis dans l'Europe, il y a des données qui ont été fournies par le EASA et la CAA, c'est dans plusieurs pays européens au Royaume-Uni. DJI utilise maintenant la cartographie officielle de ces autorités aéronautiques-là. Puis ça signifie que la plupart des blocages imposés autrefois par des GI vont être retirés. Donc, on trouve plutôt des avertissements moins restrictifs qui laissent davantage de latitude au pilote. Donc, il y a plus de liberté, plus de responsabilité. Et pour les fonctions de sécurité intégrées, des GI continuent d'inclure des fonctionnalités avancées comme le capteur d'obstacles, retour automatique au point de départ, comme je disais, le rehoming mechanism, pour aider à réduire les risques de vol. Puis le Remote ID, c'est soutenu par DJI pour faciliter la surveillance par les autorités, apparemment. Il y a des aéroscopes de DJI qui existent pour aider à les repérer sur le terrain. C'était des trucs qui étaient même un point de contention en Ukraine quand j'étais là, parce qu'il fallait trouver un moyen de contourner les aéroscopes. Qu'est-ce que ça veut dire pour les pilotes, ultimement? Bon, les pilotes, ce qui est recommandé, c'est de garder leur application puis leur drone à jour pour s'assurer d'avoir la dernière version des cartes puis des restrictions. Plus de responsabilité, donc ils doivent rester renseignés sur la réglementation locale et solliciter des autorisations quand ils volent proche d'un espace aérien contrôlé. Puis il y a des sanctions, évidemment, qui vont être au niveau de l'État, comme des amendes ou même des emprisonnements, qui peuvent s'appliquer aux pilotes s'ils enfreignent les règles puis mettent en danger la sécurité publique ou des opérations d'urgence. Les points positifs de ça, parce qu'évidemment, ça devient un petit peu inquiétant de se dire « Oh, OK, on met la responsabilité sur un utilisateur. Le drone, c'est un outil démocratisé qui partage l'espace aérien puis qui donne beaucoup de possibilités d'invasion de la vie privée. » Point positif là-dedans, ben, utiliser les données des autorités aéronautiques, ça clarifie beaucoup, beaucoup les règles en créant une norme mondiale de sécurité. Donc, tu sais sur quel territoire tu opères, tu sais quel règlement tu es censé respecter. Mais en confiant la responsabilité finale au pilote, ben ça, c'est so-so, mais on encourage une meilleure conscience des enjeux puis une plus grande responsabilisation. J'y crois pas. Je pense pas que c'est une bonne chose. Les réserves évidentes par rapport à ça. Ouais,
Gab, tu sais, quelqu'un qui veut le faire pareil. Ça change
exactement,
rien.
Exactement. C'est juste que là, tu lui donnes l'opportunité de le faire encore plus parce qu'avant, ça bloquait. Ça marchait juste pas. Fait que moi, je crois zéro à ça. Puis bon, retirer les blocages automatiques, ça peut, dans certains cas.
Ça semble très politique. Là, on s'entend que ça vient de la Chine, tout ça. Là. Fait que les autres, ils veulent que leur drone aille partout. Là. Ils veulent pas de restrictions.
Puis le timing est bon. Fait que, évidemment, ça ouvre la porte à des usages malveillants, des erreurs de pilotage.
Big time.
Puis, miser sur uniquement la bonne foi puis l'autorégulation, ça suppose que les autorités disposent des outils robustes pour repérer les sanctions et les infractions. C'est pas le cas.
Mais non, c'est pas le cas.
Ma take là-dessus, c'est que je vois une certaine tentative de saturer les autorités en place tellement de monde ont un drone puis connaissent pas la régulation, la connaîtront pas ou ont des intentions malicieuses. Il y en a qui vont se risquer, il y en a qui vont le faire sans s'en rendre compte. Si tu mets pas la restriction en place comme il y avait avant, les gens ils vont s'essayer puis ils s'en rendront même pas compte. Fait que ça met la responsabilité entièrement sur l'utilisateur, ça ouvre la porte aux usages malveillants, puis ça va garder les autorités en alerte constante puis diviser leur attention. Je le vois un peu comme une tentative de saturer l'espace.
Si le drone fait bip-bip quand il est en zone rouge, ça peut être une bonne idée, mais...
Ouais, mais s'il n'arrête pas au final, t'en fous, là. C'était déjà tellement facile de passer au travers de ces... Tu connaissais les bons outils, là. C'était quand même facile de jailbreak le drone pour faire en sorte qu'il puisse aller dans les zones restreintes, là. C'était même pas compliqué de base. Maintenant, by design, tu peux faire ce que tu veux avec, là. Moi, personnellement, quand j'ai appris à les piloter en Ukraine, on nous donnait tous les outils nécessaires pour plus avoir les no-fly zones, pour pouvoir thwarter tes positions, pour pouvoir aller comme contre les aéroscopes. Ça prenait une certaine connaissance de base sur la technique des drones puis sur le firmware et les software à utiliser. Mais là, c'est rendu by design.
Merci, Gab. Intéressant. Puis on va voir ce que ça donne. parlons d'AI un peu, parce que ça, c'est un sujet que personne ne parle.
Pourquoi? 200 000... Tout le monde en parle.
non, personne. 200 000 jobs de Wall Street qui pourraient disparaître à cause de l'AI, Steve. Ça, je trouve ça drôle. Mais en même temps, c'est normal, c'est des jobs très opérationnels. C'est de la donnée, crunching ou analyse.
C'est ça.
Pas vraiment de surprise là.
Non, mais je sais pas s'il y en a qui ont... accroché part de cette nouvelle-là, ben par contre. Oui, avec un chiffre aussi important quand tu regardes ça, est-ce qu'il y a des programmes de recyclage qui sont anticipés pour replacer ce monde-là au lieu de les envoyer direct sur le chômage? Parce que...
Ce qui est le fun de ça, par exemple, j'ai parlé là, un mois ou deux à une entreprise San Francisco, une start-up, qui construisent un produit pour former les personnes de demain en AI sur exactement le concept que tu dis là. Fait que les personnes plus au niveau rôle opérationnel, ils construisent un outil pour faire leur rôle, on s'entend là, version AI, là, mais ils donnent la formation sur comment le faire. Fait que ça s'en va là. Oui, 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 100%.
Ben, ah, moi, je regardais plutôt...
On est prêt là, mais...
Oui, oui, mais la nuance que j'apportais, c'est ton day trader, s'il ne veut pas rien savoir de l'AI, lui-là, là, dans quoi tu peux le recycler?
Autrement ouais, dit, ouais, c'est ça.
Des comment on les appelait déjà, là, on les avait au secondaire pour cégep, là, des désorienteurs. Fait que ces gens-là, c'est une spécialité en soi comme métier. Ben, y en a-t-il assez pour satisfaire 200 000 personnes demain matin qui perdent leur job à cause de l'automatisation qu'on décrit? Je pense que non.
Non, nope, c'est un point de contention régulier quand on parle justement d'éthique numérique, ah oui. D'éthique de l'IA. C'est oui, c'est cool, ça peut améliorer la productivité. Il y a des jobs qui sont rendus tellement intenses au point de vue de ce qu'ils doivent fournir comme produit ouais. que l'IA est un choix normal. Par contre, tu crées un méga problème social quand tu mets autant de monde à pied qui ont eu une expertise qui a voulu dire quelque chose pendant très longtemps.
Exact.
Maintenant, ça peut rien dire. Il y a une responsabilité des employeurs envers ces gens-là aussi. Puis ma tête là-dessus, c'est que pas tous les jobs ont besoin d'être remplacés par l'IA, même si ça veut dire plus d'efficacité, plus de... À un certain point, on est les gens qui sont living and breathing in the world. C'est à nous qu'on doit penser en premier, mais au nom de la productivité, je pense pas que ça justifie tout le temps de remplacer par l'intelligence artificielle. Au bout du compte, si ça ne nous sert pas d'un point de vue société puis qu'on crée encore plus de problèmes en implantant partout, on va se ramasser avec des problèmes beaucoup plus complexes.
Ah non, c'est sûr. Puis il y a pas d'intelligence dans les AI aujourd'hui. Là. Fait que, ils veulent remplacer du monde, là. Mais ça ne veut pas dire que ça va marcher leur affaire.
Non.
Présentement, c'est un boost. Tu utilises ça pour aller plus vite ou avoir des processus qui te prennent, ben justement, pour aller plus vite, qui te prennent du temps, ça t'as l'info, ou avoir plus d'idées ou faire plus de choses. Fait que ta personne en Wall Street qui connaît son métier, ben, il est capable d'aller plus vite puis peut-être d'inventer quelque chose de nouveau. Fait que tu sais, les trainer sur ça devrait être une bonne idée.
Exact.
T'as raison. Si la personne ne veut rien savoir de ça, ben ça s'en va où, je sais pas. Mais tu sais, automatiser, ben là, c'est le nouveau truc d'OpenAI, là, les AI agents, là, fait que c'est là qu'ils veulent aller automatiser à 100%. Ça n'existe pas vraiment encore. Puis même si ça existe, je ne sais pas si vous avez passé beaucoup de temps avec OpenAI, mais c'est vraiment pas bon, là, OpenAI. Ça fait des erreurs aux deux lignes, ça dit n'importe quoi. Quand tu lui dis qu'il y a une erreur, il te génère une autre erreur en corrigeant la précédente. Tu lui dis qu'il y en a deux, il régénère l'autre d'avant. C'est ouais, n'importe quoi. Là.
Il y a un semblant de performance pour les gens qui sont profanes, mais quand tu connais ton domaine et tu vois ce que l'IA générative arrive à faire avec, t'es comme, mais non, ça marche pas du tout. T'sais, je l'essaye pour mon domaine. Je suis comme, fais-moi une analyse comme de risque éthique, moral sur quelque chose. C'est tellement de surface, mais si t'es un profane et tu sais pas, ça a l'air super bon.
Tout à fait.
Mais ça marche pas.
Puis, je te dis le bon point, c'est de surface, parce que si vous utilisez OpenAI n'est pas très bon, point. Il est juste rapide, puis il y a du budget, là. Mais où est-ce que ça s'en va, les choses? C'est les petits AI fine-tunés sur des sujets super précis. Eux vont avoir du talent puis de l'utilité, parce qu'ils ne feront pas vraiment d'erreur. Leur champ de données est super, super petit versus des milliards de sites web d'OpenAI. Fait que, tu sais, on s'en va vraiment vers les startups dédié à sujet X, puis ça va être ça que tu vas utiliser pour ton sujet.
Ça a l'utilisation, c'est pratique, je m'en sers souvent.
Ah oui, 100%.
Assez limite, on s'entend, ce ne sont pas des entités qui pensent.
Mais non, il y avait une excellente, j'écoute, je suis dans les films vintage ces temps-ci, j'ai regardé Wargaming le mois dernier. Puis c'est dans les années 80, c'est resté actuel, c'est encore un bon film, puis à un certain point, il y a des scientifiques qui disent « What you see on screen up here is a fantasy, a computer-enhanced hallucination. » J'ai comme, on parle de ça aujourd'hui, des hallucinations.
Dr. Stephen Falcon.
Ouais, yep. Exact. Yep. Je trouvais ça très bien. C'est un film de 82, 84, mais c'est la première moitié des années 80. J'ai comme, mais moi, on dit, j'aime ça quand des trucs comme ça vieillissent aussi bien. Fait que oui, c'est des hallucinations de performance.
Oui, t'as raison, parce que Dr. Falcon, dans le film, justement, ça en était un qui a amené cette intelligence à ce qu'elle soit évidemment autonome, mais avec des éléments basiques puis de la philosophie derrière. C'est pour ça que ce que t'amènes, le Gab, là, c'est exactement... le gars, c'est pas un super duper en informatique. Non, il applique des principes de vie pour que la machine, après ça, elle ait cette logique puis soit rendue autonome.
Puis la solution, c'est de pas jouer.
C'est important.
Always.
Puis tant qu'elle est dans mes confessions de films, je me sens super mal à l'aise de vous dire que j'ai regardé Hacker pour la première fois la semaine dernière.
C'est
la
première bon. Fois.
C'est tellement fucking bon, sérieusement.
Mais, oui.
Mais pour vrai, ça a tellement bien vieilli. L'esthétique est malade. Je suis mais, vraiment comme enchantée.
Oui, oui, exact.
Mais je
suis gênée que...
mais je suis gênée que je l'ai regardé pour la première fois juste la semaine dernière.
Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont charlé ce film-là en disant que c'est pas réel. Évidemment que la manière que c'est exécuté est pas réelle, mais les bugs...
Et la poutre, c'est magnifique!
Non, je sais, mais les bugs qu'ils exploitent sont 100% réels. La majorité, c'est vrai. Évidemment, c'est l'écran 3D qui flash avec des projecteurs partout, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, quand ils sont au téléphone, puis ils sont en prison, ils pèsent 3 fois sur le petit piton. C'est un vrai bug, là. Ça a déjà existé. Fait que, tout ça est super le fun. Très, très bon film. Si vous ne l'avez jamais vu, écoutez ces deux-là. Hein. Wargaming.
Wargaming, puis ouais, absolument.
Wargaming.
C'était ma parenthèse cinéphile. Je suis content d'avoir regardé ça.
Perfect.
Pour les plus jeunes, comme Jacques et moi, Sneakers demeure aussi un baseline reference. Oui. Pour les 7 couches du modèle OSI.
Je le note, j'ai pas vu ça.
Je me souviens plus de ça. Je vais admettre
avec Robert Redford. Comment?
Yes, ça fait trop longtemps.
Je vous en fais un rapport au prochain podcast.
Vous irez écouter The Net. Là. C'est le top.
Ouais, on va faire un Telnet sur un email.
Ou bien IT, Pat, tant qu'à faire, m'a relancé là-dessus.
C'est pas celle-là qui a les SMS par Excel?
Je pense que je sais pas.
Puis il y en a un de même.
Used to be a thing.
Yeah, right.
The IT crowd.
Ah ça, non, c'est maladement bon. Là.
C'est pour tellement le IT crowd. Quand il amène c'est l'Internet.
La vraie job d'un support IT level 1, c'est ça.
Have you tried turning it off and back on again?
Thank you, come again.
C'était drôle, ça.
Hey, Charles, passons au mot de la semaine, la kakistocratie, je l'ai bien dit.
Yes. Ouais. Attends un peu, là. Pourquoi je peux ça? Tu m'as dit d'avance.
Je m'excuse. Là.
Fait que j'ai vu ça. Ça m'est venu de LinkedIn, d'un contact. Hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en personne. J'ai rencontré quand il travaillait pour Victrix, là, 3-4 000 ans. Ouais. Cyril Duchamp-Vignal. Longtemps que je n'avais pas entendu parler de lui. Puis il me texte sur LinkedIn cet après-midi pour m'envoyer un article. Il dit, je pense que tu vas trouver ça intéressant. Fait que, oui, c'est le mot de la semaine. C'est pas trop cybersécurité, mais ça va toucher des thèmes qu'on parle souvent. Fait qu'on parle de la kakistocratie, un terme dérivé du grec signifiant le pouvoir des pires. Désigne une organisation dirigée par des incompétents. Isabelle Bard, professeure à l'Université de Strasbourg, analyse ce phénomène dans le contexte professionnel moderne. Les impacts négatifs de la kakistocratie en entreprise sont nombreux. Résultats insatisfaisants et désordre organisationnel, souffrance des collaborateurs et perte de sens, sentiment d'injustice et perte de confiance, désengagement et départ des employés. Ouais, ça, je le crois entièrement, parce que ben des fois, on voit des sondages qui disent les gens restent pas pour la paye, là. Ils quittent pour les managers, hein. Pour lutter contre ce phénomène, 3 solutions sont proposées. La formation continue des managers. Ouais, ça va loin. Intéressant. Le recrutement des femmes dirigeantes, généralement plus qualifiées en raison des obstacles supplémentaires qu'elles doivent surmonter. Intéressant. Et paradoxalement, l'acceptation d'une certaine forme d'incompétence comme source potentielle d'innovation et de créativité.
Mais oui, c'est ce qu'on dit. Quand tu engages quelqu'un de paresseux pour faire une tâche, il va trouver la façon la plus facile de la
faire.
Voilà.
Et moi, le premier, j'ai toujours dit qu'une des raisons que j'ai été bon en informatique, j'ai pris ça vite, c'est parce que je suis paresseux. J'essaie toujours de trouver une manière plus efficace et plus automatisée de faire les choses. Fait que c'est vrai que ça va loin. Mais je pensais à toi, Pat, quand j'ai lu ça.
C'est comme jouer au golf.
Ah, bah, jouer au golf, oh, oui. Si, bon, non.
C'est comme jouer au golf. Tu veux jouer le moins possible au golf pour jouer au golf. Ouais.
La kakistocratie. Fait que, oui, puis K-A-K, là, pas C-A-Q. Là.
Non, c'est C-A-Q qu'on a appris récemment.
Ah, oui, okay, non.
Un peu brandé.
Bref,
j'ai trouvé ça intéressant. C'est un bon brand, ouais. Ouais, ouais, c'est un bon mot qui fit avec notre prochaine petite nouvelle. Ça, là, j'ai trouvé ça un peu terrible. Puis pas juste terrible, ça, c'est comme un move des années 90. Le gouvernement fédéral a décidé de bannir les services de streaming comme Netflix et autres sur leur réseau. Quand j'ai lu le titre, pour vrai, là, je pensais que je commençais ma job en 2000. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Hey, ils ont-tu acheté WebSense version 2002 puis ils ont banni les sites? Qu'est-ce que c'est ça?
Genre, là, tu sais, là, ils ont reparti une VM, là.
C'est vraiment ridicule. Mais ma nouvelle se résume à un truc. S'il faut que tu bannes des sites web sur ton réseau parce que tu penses que tes employés perdent du temps, sac tes employés dehors au lieu de bannir les sites web. Qu'est-ce que c'est ça?
Puis, non, puis pas non, juste... Pas les employés, ben oui. Les managers de ces employés.
Oui, je m'excuse, les managers.
Ben oui.
Ben c'est le bon point, les managers, parce que mon prochain point, c'était c'est parce que c'est mal géré. Si tes projets ont des livrables, puis le monde les livre ou les livre pas, puis il faut que tu bannes Netflix parce que ton management est mal foutu. Là. Tu sais pas comment gérer une équipe puis des projets. Là. Come on. Fait qu'on est rendu là, nous autres, au fédéral, au gouvernement du Canada.
Hein? En train de dire que c'est une caquistocratie là, qui est là.
Ouais, ouais, ouais. Ils ont vraiment promu les incompétents jusqu'en haut pour décider de faire de la cochonnerie du genre.
Écoute, dans le début des années 2000, là, c'était ça la bataille du jour. Se battre avec les RH, les syndicats, le faire valoir des droits individuels, de consulter ce qu'il y avait de besoin n'importe quand, nommément les résultats de loterie, nommément les résultats sportifs à chaque matin.
Écoutez, la radio, puis les nouvelles, les sites de nouvelles, ils étaient bannis dans les compagnies de consultation, pas de consultation, d'assurance et autres à Québec. Là.
Ah non, c'était grave. Là. Puis à la Défense, on a pu gagner nos points quand même assez longtemps. Il y avait une directive quand même assez claire. Il y avait un usage interdit, toléré, puis autorisé. Fait que dans le toléré, c'était la gray zone là, dans lequel il y en avait de la négociation qui se faisait là. Mais il n'était pas question d'avoir de porn, il n'était pas question d'avoir de gambling. Mais là, quand tu parlais à l'Auto-Québec, les URL, t'as pas séparé. Fait que tu parlais à l'Auto-Québec pour les résultats, mais en même temps, tu avais la partie juste pour les jeux. Fait que tu... Il fallait créer des regex en arrière-plan pour être en mesure de permettre juste la partie résultat de loterie, pour satisfaire les messieurs et les madames qui avaient besoin de valider le billet, versus le jeu en ligne qui était interdit.
Ça, je trouve ça intéressant, par contre, de ces discussions-là, sur où tu traces ta limite, parce que de ce que je comprends rapidement, de ce que tu dis, mettons, pornographie, gambling, d'emblée, c'est enlevé, parce que, bon, au point de vue de la société, on trouve que c'est des fautes morales. Mettons, le gambling, on essaie de pas encourager ça, on met ça sous porte-close, la pornographie, ça se passe en privé, idéalement, on veut pas que personne n'est à l'aise de te parler de sa consommation de pornographie, c'est considéré comme immoral, ça, on bannit ça d'emblée. Mais tu sais, je me rappelle, je me suis posé des questions... Quand je vois, par exemple, les débats sur le téléphone en classe, dans les écoles, etc., ça distrait les élèves. Puis je me remets comme dans le contexte de quand j'étais moi-même une jeune élève secondaire, etc. Moi, j'aimais beaucoup écouter de la musique. Ça me faisait du bien. Ça me déconnectait de mon environnement. Mes professeurs voyaient que je performais. Fait qu'ils me permettaient d'en écouter parce que ça m'aidait à me concentrer. Ça me mettait dans ma zone. Là, tout d'un coup, si j'étais téléportée comme une jeune adolescente, mais dans le contexte actuel, je pourrais même pas écouter cette musique-là. Mais... il y avait aussi la barrière d'accessibilité. Si tu voulais écouter de la musique quand t'étais plus jeune pour te distraire, ben c'était un lecteur CD, des CD, t'en avais pas autant que ça, c'était assez limité. Là, tout d'un coup, téléphone démocratise l'accès à absolument tout. Ouais. Là, on enlève le téléphone, oh, mais là, tu perds ton avantage de musique. Si c'était juste de la musique, c'est pas si pire. Quand t'as accès à tout le reste, là, tout d'un coup, ça commence à être un problème parce qu'il y a de l'abus, les gens, ils finissent par s'emporter puis ils consomment un peu trop. Je vois le même genre de problème ici où, justement, bon, ils bannissent Netflix. À l'époque, si tu voulais regarder un vidéo ou un film pendant que tu travaillais, c'était un peu plus d'effort. Tu avais ton lecteur DVD portatif, demandais une permission, c'est-tu correct, ça me fait du bien en écoutant. C'est un peu comme, tu sais, on en parlait même sur Discord, ça nous a fait parler plus tôt, Guillaume qui disait, ben, il y a tant que tu as ton livrable, si tu veux écouter un film pour noyer le background parce que ton voisin est sur le Zoom à côté, ben, tout d'un coup, OK, peut-être ça se négocie. Fait que je trouve que ça ouvre une discussion intéressante sur où est la limite parce qu'elle change avec l'accessibilité. Puis elle change avec ce qu'on trouve immoral et moral dans société en général. Donc, ça va toujours être en train d'évoluer.
Ah, les jeunes, hein, Steve, hey, des CD. Nous autres, c'était des cassettes, man.
Cassettes avec le Walkman Drone.
Fallait que tu flippes de bord aux 20 minutes. Arrêtez donc de
chialer. Les cassettes arrêtaient tout seul quand ça arrivait à la demi-heure. Des fois, tu étais chanceux, tu avais des cassettes de 90 minutes.
Ouais.
Ouais. Puis là, tu étais chanceux quand tu voyais la chanson à la radio qui ne parlait pas trop au début à la fin.
Tu l'enregistrais.
Et voilà. Ça, c'était les bonnes années.
Allez, mais là, l'annonceur, il parlait par-dessus la fin de ta tune. Ah, comment?
Oh, ouais, c'est pas correct.
Moi, c'était télécharger via Napster. Wow.
Ah! Non, 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 Satan, j'avais pas entendu, non.
Tu fais jouer le MP3, puis tu l'enregistres sur la cassette, puis la cassette, tu peux l'écouter dans le char.
Ça, Napster, Napster, ça existe encore, vous savez. Hein? C'est un très bon site. C'est un bon stream. C'est eux qui payent le plus les artistes, même.
E-Donkey, ils font pas ça.
Non, mais j'en ai parlé à Jacques, mais je m'en vais vers ça. Là, me retourner vers les vinyles, ces gogosses-là. Là,
yes, sir.
Fais une expérience de la musique à la place d'une expérience de consommation. Ouais. Tu deviens un peu plus, comme il dit, mindful.
Oui, oui, oui.
Ouais, puis tu la ça, possèdes, tu sais, elle peut pas disparaître demain matin.
Ah ouais, les affaires de streaming, là, à tous les fois, il arrive quelque chose, t'es pas capable de l'écouter. Que si tu l'as chez toi, là.
Ouais, pis pas juste ça, tu sais, mettons, tous les films que t'achètes, que ce soit Google, Apple et autres, là, que tu payes pour l'acheter, pour le posséder, t'as la petite étoile qui dit jusqu'à temps qu'on l'enlève, ça nous
exactement. Tente. Exactement. C'est une fausse, c'est une illusion.
C'est pas un achat, c'est un...
C'est le plaisir de l'album. Hein, de sortir le vinyle, de le mettre sur la table tournante, de mettre l'aiguille. Puis là, tu t'assieds avec l'album. Là, puis
tu parles d'une expérience, Jacques. Là.
C'est ça, tu lis les paroles, tu lis c'est qui les ingénieurs, les musiciens. Écoute, ça fait 40 ans, 50 ans, puis je sais, je connais encore le nom de tous les musiciens dans Supertramp. T'sais, aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas les musiciens, ils ne connaissent pas les producers,
les chanteurs
qui travaillent là-dessus. Ouais. C'est...
Même à ça.
Ouais. Mm-hmm. T'es sûr de ça? Tu parlais à beaucoup de jeunes dernièrement? Juste ça.
Aucune idée. C'est ça.
Comment est-ce le nom qui s'appelle Little quelque chose, Naz?
Little Naz,
son vrai nom, sûrement pas.
Il y a un plaisir. Il y a certainement un plaisir à ça. Là. Ouais.
Ouais, je sais pas à quel point, parce que la relation avec les artistes maintenant est très parasociale. Elle se passe beaucoup à travers comme les Instagram et Patreon.
Mais c'est de l'influence, là, tout à fait.
C'est ça. Fait que je sais pas à quel point ils sont peut-être pas encore plus familiers avec l'artiste que tu penses.
Avec l'artiste, oui. Mm-hmm. Mais tu sais, à notre époque, nous autres, on écoutait, là, on connaissait tous les musiciens dans le groupe. On savait
c'était qui. Mais oui, mais ça, c'est une expérience de groupe aussi,
La meilleure exemple, c'est Tiësto, le DJ techno.
Ouais.
Est-ce que tu connais qui fait la musique pour Tiësto?
Personne ne sait.
C'est le DJ le plus populaire depuis les 30 dernières années. Il sold out à 100 000 plus personnes tout le temps. Personne qui connaît ces musiciens. Personne. C'est la même chose avec les nouvelles personnes, les nouvelles influences d'aujourd'hui. Ils connaissent la personne, mais le monde qui font la musique en arrière, oublie ça, là.
Mais en quoi c'est un défaut de ne pas c'est connaître pas les gens?
C'est juste une expérience différente.
Oh ouais.
OK. De la façon que Jacques en parlait, c'était peut-être son côté vinaigré. C'était comme s'il y a comme une faute morale de la part des consommateurs de ne pas connaître la personne. C'est juste music. Just enjoy.
OK.
Ben, c'est sûr que ça a un effet triste parce que le gars qui fait la musique en arrière, la personne en arrière, n'est pas connue et elle fait moins d'argent. Puis c'est ça.
Non, elle va faire autant d'argent parce que c'est avec les droits, c'est pas avec le fait qu'il est connu nécessairement.
Ouais, ben, on en reparlera. C'est pas de même, ça marche. T'as raison, c'est avec les droits, mais ils leur donnent pas le droit, généralement. C'est plus ça qui est triste, là. Ouais, j'ai un bon ancien collègue de job qui fait ça, qui a travaillé pour un des plus grands DJ, fait des tournées mondiales et tout. Leur nom était nulle part. C'était la personne front, mais pas les noms en arrière.
Ça les aide pas plus tard, ouais.
Ouais, c'est un peu plate. Fait que le gars, c'est ça, il travaille au gouvernement ici. Il est super bon. Mais pas personne vraiment qui va le savoir. c'est plate. Ah boy. Très nostalgique comme épisode. Hein? C'est pas mal ça. Ouais, ouais, ouais. Steve, parle-nous un peu de la Chine. Là. Une couple de China News. Ben ouais, encore. Ben là, t'as la DOJ qui veulent supprimer des malwares. Après ça, on a. C'est quoi l'autre que j'ai vu là? Calibin. C'est pas grave, commence avec celle-là, je vais retrouver l'autre.
C'est un article que j'ai pondu dans LinkedIn qui s'appelle « De la cybercriminalité à la cyberguerre », inspiré d'un article du Wall Street Journal.
Oui, celle-là, merci.
Puis, dans cette partie-là, ça démontre justement comment les pirates, les cyberpirates, cybercriminels, on va les nommer comme ça, font une migration progressivement à ce qu'ils deviennent des genres de milices pour tout ce que le gouvernement chinois veut accomplir. Ce qui est ironique là-dedans, le gouvernement chinois, il y a à peu près plus de 125 000 soldats à l'œuvre, sur payroll, qui mènent des cyberopérations à travers le monde. Les Américains, les Russes sont à peu près 5-6 000 dans chacun leur cours. Là. C'est compté comme ça. Le Canada en a moins de 100. Mais la Chine, par son désir de dominer les marchés, prennent tout ce qui passe. Puis ils sollicitent la population, puis ils sollicitent ces gangs de cybercriminels. Alors, c'est là que ça devient, la ligne devient encore moins franche pour dire quand est-ce que ça devient une attaque politique, pour dire que ça devient à ce moment-là un déclencheur de conflit versus un pur et simple hack que c'est attribuable à des pirates marginaux. Ça n'a aucun sens là, que ça se produit et ça se poursuit dans l'avenir comme ça. Fait que donc, ça, c'est une prise de conscience qu'une moment donné, il va falloir tirer la ligne et dire, là, c'est assez. Ceux et celles qui viennent vendre, plutôt prendre nos informations de propriété intellectuelle, ils vont pas les revendre, ils vont les reprendre, ils vont l'amener dans l'économie chinoise et les Chinois vont en profiter. Ils vont nous revendre après ça ces éléments-là qu'on a travaillé et qu'on a payé ce développement-là avec nos taxes, avec... avec notre sueur, ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des éléments là, que de conscientisation sociale que c'est très important à faire, à mettre en application. Ça revient à comment qu'on peut après protéger nos institutions de recherche. Ben, c'est la sensibilisation. Il y a toujours la majorité des universités qui sont encore toujours pour la liberté de pensée et d'action et de parole. C'est bien le fun, ça. Mais quand ça défie les simples règles de cybersécurité qu'on essaie d'implanter partout autour de nous, puis t'apprends qu'il y a eu une fuite d'informations dans une université de haut calibre et de prestige à cause d'un petit serveur QQ, d'un chercheur qui a laissé ça ouvert sur un port ouvert sur Internet public. Alors, là, après ça, c'est la faute à qui? Le chercheur se vise l'université, c'est de ta faute. L'université t'a pas protégé ma recherche, blablabla, je vais m'en aller, tu sais. C'est de m'emmener, là, il y a une responsabilité personnelle là-dedans, là, puis il faut que les gens prennent conscience de ça. Et ça, c'est à tous les niveaux.
Gab, ouais, c'est dur d'être conscientisé là-dessus. Là. Ouais, excuse Gab.
Non, moi, j'étais très excitée par ton sujet parce que c'est essentiellement un peu comme un penchant de mon sujet de recherche qui est, comme ce que j'étudie, c'est l'implication civile dans les conflits, mais entre autres, il y a un gros layer de enemy use case, oui. C'est l'implication dans les cyberopérations. Fait que t'as littéralement un layer civil qui est inclus dans la cyberdéfense, par exemple en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui attaquent régulièrement la Russie, c'est des hacktivistes. C'est des gens qui font ça par conscience de cause, puis ce que tu décris, c'est le penchant un peu, je veux dire, méchant de ça, mais tu vas remarquer que c'est exactement les mêmes questions qu'on s'est posées par rapport au terrorisme au début des années 2000, parce que ça changeait les règles de la guerre. Comment, en tant qu'État, est-ce qu'on peut se défendre contre des acteurs non étatiques quand ils font des actes de guerre contre nous? Mais qu'on n'a pas, selon les lois de la guerre, la loi de la guerre juste, la permission d'aller attaquer ça parce que c'est pas un État. Donc, le côté décentralisé des cyberopérations, ça rend ça extrêmement complexe parce que comment tu réponds à ça d'un point de vue de défense? Est-ce que ça rentre dans ton cluster de cinquième dimension? Donc, est-ce que peut-être tu peux faire une intervention de cyberopération contre ces gens-là avec tes militaires? Mais là, tu te poses des questions sur la retaliation, sur la proportionnalité. C'est toutes des questions qui sont super actives actuellement, qui sont très, très débattues au niveau militaire, au niveau civil, au niveau privé, avec la Croix-Rouge, entre autres, qui se penche sur ces questions-là. Le CCDCOI se penche sur ces questions-là aussi en Estonie, le Centre d'excellence de coopération en cyberdéfense qui est en Estonie, qui hoste le SciCon, que toi et moi, on va aller cette année. C'est toutes des questions très, très hot actuellement. Fait que tu as tout le côté activiste, qui est très bien, on n'en parle pas souvent, mais ça fait partie des stratégies de défense qui, moi, je pense, doivent être leverage pour qu'on puisse avoir une meilleure résilience. Puis ça vient chercher un peu les frameworks de défense totale que les pays scandinaves ont, où la société civile est prévue dans la stratégie de défense en cas de crise. Ça doit se passer au niveau cyber aussi, parce que c'est ubiquitaire. Là. Le cyber, on est tous dessus. Les militaires comme les civils, on est sur le même environnement. Fait qu'il faut planifier ça aussi dans la résilience cybernétique en général.
Mais c'est là que ça fait défaut. Ça fait défaut, Gab, parce que maintenant, tu as la gouvernance à tous les paliers qui utilisent ce même Internet que tout le monde a chez eux.
Exact.
Il y a un espace de travail qui est manquant. Parce que si tu remarques, dans les années 90, début 2000, il y avait une séparation des réseaux de traitement d'informations et d'échange d'informations. Mmh. Puis que là, ça s'est fait unifier. Et là, on a les Internets partout. Et quand après ça, tu essaies de faire justement séparation et ton cloisonnement d'informations, qu'il n'y a pas d'affaire à être exposé public. Puis là, tu apprends du jour au lendemain, ah, il y a une fuite d'informations très importantes qui s'en va sur Internet. Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle avait à être accessible, ton information sur Internet, premièrement? Fait que ça, c'est la compartimentalisation qui est le mot-clé. Et les personnes veulent travailler le problème dans son fond. Parce que ça favorise, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, les messieurs, les madames veulent avoir accès aux résultats de l'Auto-Québec, ça soit bien important, mais c'est important qu'ils fassent le travail aussi avec l'information qui est sensible, parce que c'est ça qu'ils sont payés pour faire, mais c'est complètement incompatible.
Il faut que tu penses à tout ce qui peut, toutes les restrictions de liberté qui viennent avec un meilleur oversight de tout
c'est ça l'affaire, là tu as un clash après coup avec les syndicats puis tous les défenseurs de droits des droits de bienfaisance, et c'est là que ça tourne dans une loupe ad vitam aeternam, puis ça avance pas. Fait que pendant ce temps-là, justement, les ceux et celles qui ont catché qu'est-ce qui se passe de même, qui viennent voir notre immobilisme, ben ils sont capables de rentrer dans un réseau à ce moment-là, n'en profitent. Puis quand le mal est fait, tout le monde se rend compte, ah oh, ben, Caroline, ils ont rentré dans le réseau, puis ils ont fait ça. Hey, c'est pas correct. Ben non, c'est pas correct, mais ils le font.
C'était pas fou à l'époque quand le militaire et l'académique étaient séparés, puis là, on a foutu le consommateur là-dedans, monsieur, madame, tout le monde qui n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils font. Là, mais...
ben, en même temps, c'est bon, genre, parce qu'il faut amener ces connaissances-là. T'sais, c'est ça le but des échanges Internet, de partager ces connaissances et ces communications.
Oui, mais il faut éduquer la population, comme ils font en Finlande. Ici, on ne fait pas ça. Ouais.
Mais pour ça, là, ils sont éduqués en conséquence. Ben, ce n'est pas le cas avec nous ici.
Ben non, 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 on est loin de là.
Ben oui, puis c'est à qui je parlais aujourd'hui de ça. En Finlande, là, c'est en Finlande, me semble que oui, ils l'ont fait le petit pamphlet de protection.
Mais les deux ont ça, c'est en Suède. C'est en Suède, mais les deux pays ont ça. Les pays scandinaves ont ça, l'Allemagne a ça, les Pays-Bas ont ça.
Quand est-ce que nous autres, nos pamphlets de protection en cas de retombée de radiation étaient dévoilés puis mis à jour? C'est dans les années 60-70, j'en ai encore.
On n'aura jamais ça. On n'a même plus d'alarme.
C'est un autre aspect. Puis ça me fait penser, Gab, comment ça se fait que le monde a eu de la misère à se faire aviser dans le comté de Los Angeles quand évacué? Bien, ils ont dit, on a fait, oups, on a fait une erreur, on n'aurait pas dû envoyer ce message-là. Hey, comment là, c'est de la fucking opération. Ouais. T'as des vies qui dépendent de toi. Puis là, tu réussis à qualifier que tu fais une erreur bête?
Non, désolé. Il y a eu le cas des inondations à Valence l'année dernière. Même chose, pas d'alerte. Parce que le monde, ils sont fait poigner là-dedans. Là.
Fait que tu sais, ça s'appelle dormir au gaz, 8 à 4. Parce que l'incident arrive à 6 heures le soir. Ah, ben, on va régler ça le lendemain matin. Bullshit. C'est là qu'on s'en va dans le ditch, mais raide, puis qu'on va se faire pogner vraiment de façon non préparée. Puis, présentement, les opposants le savent.
Mais ça te rassure-tu, au moins, si je te dis que je travaille pas là-dessus?
Ben, on va t'accompagner, on va être deux.
Travaille là-dessus.
Regarde, non, mais juste pour nous aider à avoir un peu d'espoir. Le FBI s'est fait autoriser par un juge dans les dernières semaines à aller justement chez chez des victimes qui étaient pris d'un plugex avec un malware dans 4200 ordinateurs partout aux États-Unis. Fait que, autrement dit, ils ont fait un appel à la maison, tu sais, ils ont fait un home call, puis ils ont été enlevés cette pièce de logiciel-là, légitimement documentée. Et ça veut dire, waouh, t'es un peu là. Tellement qu'il y a d'avertissements, personne prend en sérieux, que personne prend leur responsabilité, ben, pour protéger le reste de la société, le FBI a pris action directe. C'est fou raide, là. Puis pendant qu'il y en a des enquêteurs, des policiers, des techniciens qui font ce travail-là, le reste n'arrive pas non plus. Fait que c'est là que, quand je disais tantôt envers les Chinois, la problématique, c'est qu'il y a une discipline personnelle. Que tout le monde devrait faire son minimum, un peu comme dans les états de préparation de sécurité civile, et après ça, collectivement, s'assurer que tout le monde aussi l'applique comme il faut.
Non, on peut-tu avoir une demi-mesure, mettons, entre le laxisme canadien puis le contrôle de population chinoise? Tout le monde est personnel.
Juste milieu, hein? C'est tout le temps ça.
C'est ça. Fait que, moi, j'aime beaucoup le modèle de défense totale qu'on parle, justement, les pays scandinaves qui ont ça, entre autres parce qu'ils ont tous des frontières communes avec la Russie. La question d'être préparé est extrêmement importante. Moi, je m'inspire beaucoup de ça dans mes recherches puis dans ce que j'écris comme papier, justement, pour dire qu'on peut avoir une couche de défense stratégique qui implique les civils, qui s'inspire du modèle de défense totale. On en a des civils compétents dans le secteur privé ou bien juste volontaires qui peuvent être utilisés, mobilisés pour se défendre à ces bons moments-là. Fait qu'il y a moyen d'amener ces frameworks-là dans le côté cyberespace, absolument.
Mais pour ce faire, par contre, ça prend du leadership, ça prend de la détermination, et c'est ça qui manque en haut.
Je suis d'accord.
En haut, dans le milieu, un peu en bas.
Oui, Pat, toutes ces réponses sont bonnes.
Hey, puis terminons ça sur le sujet de Console Chaos, mon Jacques.
Ouais. La compagnie Arctic Wolf a découvert une campagne d'attaque ciblant les interfaces de gestion publiquement exposées des pare-feux Fortinet.
Ouais, pas Fortinet.
Fortinet, Fortigate, ouais. Les attaquants exploitent ces interfaces pour créer des comptes d'administrateurs non autorisés, ben oui, modifier les configurations VPN SSL. Donc, les points et clics sont sortis de ça. Les attaquants utilisent des adresses IP usurpées pour accéder aux interfaces de gestion. Ils créent plusieurs comptes d'administrateurs locaux pour maintenir leur accès. Les configurations VPN sont modifiées pour permettre un accès persistant. Et dans certains cas, les attaquants ont réussi à effectuer des attaques DC-Sync pour extraire des identifiants. Donc, qu'est-ce qu'ils recommandent? Bon, si vous êtes en train d'écouter le podcast dans l'auto, vous avez des écouteurs, des AirPods dans les oreilles, baissez le volume parce que je perds des plombs. On n'expose pas des interfaces de gestion sur Internet, cyber!
Ouch!
C'est trop compliqué à comprendre! Non, mais...
OK, mais là...
Combien de fois qu'on l'a dit? Combien de fois qu'ils font le répéter? Ces gens-là qui font ça, je les mets contre le mur pour les fusiller.
C'est cette face-là que je veux voir dans le soleil.
Je sais plus quoi dire. Hey, il faut être vraiment là. Fait que vous méritez, là, s'il y en a qui se font pogner, vous méritez d'être hacké au bout. La compagnie est détruite, astille, c'est fini. En tout cas, fait que ça, c'était le premier numéro un. Ça va rien changer, là, vous faites des plombs de main, mais ça fait du bien.
C'est la première partie.
Ouch!
L'accès devrait être limité aux utilisateurs internes de confiance. Ben oui. Et les organisations devraient surveiller les changements de configuration anormaux sous leur pare-feu. Ben non, personne ne fait ça. En tout cas, Fortinet a été modifié de la campagne le 12 décembre et a confirmé que l'activité était sous investigation. Fait qu'encore Fortigate, mais bon, je sais pas, à mon avis, c'est un problème Fortigate, mais plus là, honnêtement, exposer les interfaces de gestion sur Internet. C'est ça, Pat. C'était mon petit pétage de plomb en soir, là.
Un petit moton qui est passé.
Fortigate, Fortinet. Il semble qu'on en parle souvent de leurs problèmes, eux autres.
Combien de failles qu'ils ont eu dans les dernières années, là, ça finit plus. C'est ridicule.
Ah, ils ont bien passé Cisco, je pense, en termes de problématiques.
Oui, il me semble que oui. Là.
Ouais.
C'est plate parce que quand ils ont commencé, je me souviens quand ils ont commencé, là, mon Dieu, 10, 12, 15 ans, là, puis j'avais mon autre compagnie, puis on en vendait, puis c'était une bonne réputation, ça allait bien, c'était bien reconnu, mais je trouve que dans les dernières années, là, c'est, bon, il y a un manque. Là,
Il y en a beaucoup qui ont bien commencé dans la vie, de m'emmener, puis ça a dérapé. Là, puis,
ouais. Profit, plus de sécurité, ouais. C'est ça qui se passe. Sauf qu'ils se vantent que c'est sécuritaire, c'est ça qui est triste.
Ouais. Oh, ils surfent sur ce qui était fait avant.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un peu comme Cisco. Là. Ouais, on est super bon, mais ils ont hard-codé tous les mots de passe dans toutes les machines. Tu sais. Good job.
Mais Cisco aussi, c'était une compagnie de m'emmener qui est devenue qu'une compagnie qui achetait un paquet de produits à gauche et à droite.
Ouais.
Puis ça, ça n'a pas été des belles stratégies parce que...
Ben, c'est encore ça, là. C'est leur stratégie principale.
Ils vont chercher une meilleure dans tous les domaines. Ça, c'est correct. Mais il reste que pour l'intégration, puis après ça, faire en sorte que c'est un produit qui a la même fiabilité que le saut qui est sa boîte. Ça, c'est une autre histoire. Puis j'en ai vécu de ces histoires-là dans les années 90-2000 quand il y a eu les acquisitions de Catalyst, les acquisitions pour les ASA, les PIX Firewall. Je veux dire, c'était... prometteur, mais calique qu'il y avait de la job à faire.
C'est du rabotinage à un moment donné, c'est ça le problème?
Ben, c'est ça.
Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, ils copy-paste des solutions dans 12 autres logiciels ou appliances. Puis au final, t'as plein de features inutiles que personne ne veut. Mais t'es obligé d'acheter le package au complet pour ta feature. Qu'est-ce que tu penses que ça fait en termes de surface d'attaque, ça?
Puis les commandes qui sont pas compatibles entre les appareils, fait que tu es obligé d'apprendre plusieurs types de commandes différentes. C'était du trouble, ça.
Ben oui.
Aïe, aïe,
aïe. iOS, les routeurs, 4OS, la Switch, et whatever, OS, sur le firewall, puis le concentrateur VPN qui est à part dans le temps. Aïe, tabarnak.
On était bon.
Yes, mon Richer, je te laisse finir notre show. Notre show. Quand je dis le mot show, j'aime ça mettre ça ici.
Le spectacle de notes.
Le spectacle de notes.
Utilisez ceci
pour Non. Tu rappelles des souvenirs. Là, j'ai un mal de tête.
Je m'excuse.
J'ai mal à la tête. Non, ben, c'était bon, c'était pas pire, ça. Mm-hmm. On est 4 minutes au-dessus de l'heure dans l'enregistrement, donc ça veut dire que ça fait 4 minutes qu'on est parti. On a à peu près 1 heure. C'est bon.
Comme on avait un buffer de niaiserie,
en fait. C'est ça, justement, c'est ça. Ça fait qu'on est pas
prêt.
En
l'âge de niaiserie pour avoir des bloopers, hein. C'est
ça. Parfait, ça. Je vais arrêter de parler, puis je vais dire le mot de la fin, autrement, on va dépasser le buffer. Donc, avec tout ça.
Over and out.
Yes, sir.
Yes, c'est the moon. On se revoit dans 2 semaines.
Yes, sir.
Cool.
The French Connection.
À l'heure normale.
Hein?
What?
There's a new sheriff in town.
Ah, mm-hmm. Oh, ok, à l'heure normale, ok. J'étais comme, non, t'en pas l'heure.
On est rendu à moins 6.
Non,
je pense que c'est ça parce que tantôt j'ai été lire une couple de trucs, puis l'espace aérien autour de la Maison-Blanche, il y a un paquet de drones qui ont été aperçus là, alors que c'est une zone restreinte. Il y a des avions qui ont été bougés, détournés pour pas aller à Reagan, qui ont été juste à côté, à Dallas.
Mm-hmm.
Ça va être drôle tantôt.
Super neige.
En lien avec l'article que tu vas parler tantôt.
Ouais.
Bon, on pose sur les pentests, Pat. Hein?
Thank you. Hey, méchante histoire de merde, cette affaire-là. Mm-hmm.
Quelle affaire?
Ouais, j'ai fait un post pour chialer contre les plus compagnies pentests, mais... Une semaine ou deux? Ouais, mais celle-là est encore plus drôle, parce que c'est pas juste une compagnie qui fait des scans de Nessus, là. C'est une compagnie que leur vente, c'est genre du AI scanning, là.
Mm-hmm.
Automatique, pen test, whatever, bullshit. Puis ils rajoutent du monde en plus, fait que là, ils disent, ben, c'est un vrai pen test parce qu'on a du monde. J'ai reçu le rapport, c'est genre, TLS est pas là, that's it. C'est une petite cochonnerie. Il y avait peut-être un ou deux autres affaires, mais tu sais, même niveau. Là, je commence à lire le rapport. Il y a le scope de l'application. L'URL du scope, c'est genre slash login. Fait que finalement, ils n'ont pas testé l'application. Ils ont seulement testé slash login. Je check la méthodologie. C'est un... Je me souviens plus du détail, mais ça dit genre... Nous avons fait un test applicatif avec la méthodologie suivante. La méthodologie, c'est OWASP. Dans eux, c'est pas une méthodologie. Après ça, ils disent notre autre méthodologie, c'est telle affaire qui est aucunement ce que le test est. C'est genre, ils ont pris une méthodologie de faire du pentest physique pour faire un applicatif. Ben, hier soir, ils ont répondu à notre équipe. On a dit, ben, voici le rapport ajusté. Ils ont changé le scope puis changé la méthodologie. Ben non, c'est triché, ça, là. T'es un fucking menteur.
Je trouvais que ça faisait chialeux plein de vinaigre, ton affaire, que j'applaudis.
Oui. The French Connection.